noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Pour une vision plus large des choses. Ni noir ni blanc. D'un extrême à l'autre, il y a tout un monde. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Bon mercredi sous la pluie, tout le monde.
Déjà mercredi.
Déjà mercredi.
Bonjour à tous les motocyclistes qui, qui, comme moi, ont décidé d'affronter les éléments.
Oui, t'es arrivé un petit peu mouillé ce matin.
Oui, d'ailleurs. Je suis en ce moment mouillé.
T'as pas tellement le mode de transport idéal pour ce matin.
Non, mais c'est moi qui n'ai pas intelligent. Tu sais, j'ai comme, moi, il y a des décisions que j'ai pas encore appris à faire. Genre, est-ce que je mets un manteau? Non. Tu sais,
assez
souvent
là.
Plus. Non. Je me sens, j'aime pas ça avoir du stock sur moi. Je me sens étouffé facilement. Puis je suis comme, non, oui, j'y vais de même. Puis là, je le regrette toujours. Mais en tout cas, j'étais un peu résistant là-dessus. Voilà. Sûrement quelque chose, j'évite.
C'était pas une très belle journée ce matin. D'ailleurs, quand je me suis levé ce matin, on dirait qu'il était 3h du matin. Là. On aurait dit qu'il
était... Ah oui, c'était sombre. Oh, hein?
C'était noir. Sombre. Incroyable. Ouais. Il y a des orages, d'ailleurs, cette nuit. Moi, j'aime ça, les orages, par exemple. C'était le fun.
Ah ouais?
J'aime ça, le bruit des orages. Je sais pas pourquoi.
OK.
C'est peut-être quelque chose psychologiquement.
Ils virent pas fou, tes animaux?
Ils dorment dans leur chambre, fait que je sais pas s'ils ont eu peur cette nuit, mais moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas, les orages. Bon. Alors, mercredi sous la pluie, qu'est-ce qu'on a comme menu pour vous aujourd'hui?
Je suis vraiment excité de notre show aujourd'hui.
Hey, on dit ça à chaque matin, on dirait.
Non, ouais, mais là, quand même, là, on avait le feeling en meeting. On dit, OK, ça, c'est fort en tabarouette.
Absolument.
Tous les sujets.
Pour le courrier du cœur, on va parler de consentement aujourd'hui à 11h30. Mm-hmm. Un segment très important. Alors, soyez avec nous. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Puis, votre point de vue sur différents éléments va être très, très apprécié
oui,
également.
Oui.
Alors, on parle de consentement à 11h30 ce matin.
Surtout en termes de sexualité.
Absolument.
Surtout.
Qui est un des points les plus importants, effectivement. Oui. Ensuite, à 11h, on va parler de rêves ce matin.
Oui.
Là, pas de la signification des rêves. On ne veut pas que vous nous racontiez vos rêves non plus. On n'est pas là-dedans. Là. On va parler plutôt de l'influence de nos rêves sur nos décisions au quotidien.
Exact.
Ça va être bien, bien intéressant.
Oui.
Mais d'abord, parlons d'argent.
Oh, yeah, money.
C'est un sujet très intéressant. On a tous un point de vue sur l'argent. Ce matin, dans le journal, vous allez voir le nom des premiers gagnants de la loto-vaccin, hein, l'espèce de loterie que le gouvernement a mis en place pour inciter les gens à aller se faire vacciner. Il y a un homme, par exemple, qui a gagné 150 000 $ via cette bourse-là. Du jour au lendemain, 150 000 $ qui te tombent sur la tête sans que tu aies nécessairement travaillé concrètement pour l'avoir. Alors, l'argent. On a souvent entendu la phrase qui disait « bon, l'argent ne fait pas le bonheur mm-hmm. ». C'est vrai jusqu'à un certain point, mettons. Là.
On va le définir, justement, nos seuils de bonheur.
On va définir ça. Et la question qu'on va vous poser ce matin, elle va vous demander une petite réflexion. Fait que je vais vous la dire maintenant et pendant qu'on va discuter, vous pourrez y penser.
Attends, c'est quoi la question?
Ah oui, OK,
c'est beau.
Ça, non,
c'est beau, je suis là.
Alors, pensez-y. À quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux? Et là, on ne veut pas avoir une tranche de salaire, on veut avoir un chiffre précis. Dites-moi
c'est quoi
pas,
votre chiffre?
Voilà. Dites-moi pas entre 100 000 et 300 000, dites-moi un chiffre précisément. À quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850.
Puis aussi, dites pas genre 25 millions, OK? Comme, tu sais, ouais, pour 8 milliards de dollars, je serais correct. Non, là, c'est pas ça. C'est
non,
comme
c'est pas
réalistiquement.
Ça le point. Voilà.
Pour vrai, un vrai chiffre, là, une vraie, mouillez-vous là-dessus, là. Combien, là? Combien? Tu sais, puis, fait que c'est sûr, là, ça sera pas 10 millions, là. OK? On parle
non,
de quelque
réaliste,
chose qui est réaliste,
voilà.
Selon vous, là. C'est quoi le sommet, là? L'équilibre pour vous qui est au top ou qui vous permet d'être le plus heureux possible, selon vous?
Et ce qui est intéressant, Guillaume, c'est que, concernant la fameuse phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, il y a des scientifiques qui se sont vraiment posé cette question-là et qui se sont penchés sur la science. C'est la psychologie derrière ça.
Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, l'argent fait le bonheur, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si l'argent sert à sécuriser le milieu familial ou sécuriser sa propre vie et garde les créanciers à l'extérieur de la maison, qui nous permet de payer nos factures,
ouais.
Alors cet argent-là va vraiment augmenter notre qualité de vie. Mais à partir du moment où on est capable de payer facilement tout ce qu'on a à payer, tout ce qui va au-delà de ça en termes de revenus n'augmente pas significativement le bonheur. Et au contraire, il y a d'autres processus qui sont mis en place et il y a des risques nouveaux potentiels à avoir plus d'argent à gérer, ce qui n'a rien à voir. Donc, il y a comme deux paliers. Il y a en dessous du niveau où on est capable d'arriver financièrement à payer nos factures et il y a une autre stratégie financière qui est au-dessus. Puis même, je le vois avec mes clients, les gens qui ont plus de la difficulté à arriver, je vais les coacher d'une certaine façon, on va jouer sur certains processus. Puis aussitôt qu'une personne commence à avoir assez d'argent, il faut changer complètement le processus et donc ce n'est pas rectiligne, même psychologiquement.
Alors, le chiffre n'est pas pareil pour tout le monde. Individuellement, ça va dépendre de notre situation puis des dépenses qu'on a. Je comprends que le niveau de bonheur va changer selon est-ce qu'on est capable d'arriver à zéro à la fin du mois? Est-ce qu'on est capable de tout payer sans s'endetter et en étant confortable là-dedans?
Puis je dirais même, pas juste arriver kiff-kiff, là. Faut vraiment sentir qu'on peut arrêter de se préoccuper si oui ou non on va être capable de payer nos factures. Donc, c'est pas juste une équation comptable. C'est pas, tu vois, vous arrivez flush. Non. Quand tu arrives trop flush, le cerveau reste vigilant. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça te prend. Faut que tu sois un petit peu au-dessus de ça pour que tu aies une espèce de marge de manœuvre d'imprévu. Mais dans le fond, la marge de manœuvre vise la même chose, c'est-à-dire s'assurer que même en cas d'imprévu, on est capable de payer nos factures. Mais un coup, qu'on dépasse ce seuil-là, même avec notre marge de manœuvre, là, on rentre dans une autre zone. Évidemment, ça varie d'un milieu familial à un autre, d'une personne à une autre, et aussi du contexte socio-culturel et économique dans lequel on est. Donc, c'est pas un montant d'argent, exemple.
Fixe.
Oui, c'est ça. Ça dépend de l'environnement socio-économique.
Mais en même temps, la personne qui a un très, très haut rythme de vie, qui a une maison de plusieurs millions de dollars, qui décide d'avoir un char qui coûte cher, qui veut en plus avoir un bateau puis toutes sortes de bébelles, lui, on s'entend que pour arriver à payer tout ses comptes à la fin du mois, il va avoir besoin d'un salaire annuel pas mal plus élevé que celui à côté qui a un rythme de vie plus bas. Là.
C'est ça. Donc là, c'est pour ça, c'est quand les gens sont capables de payer leur facture de base et tout ça, bien vivre, là, après ça, mais tu peux toujours repousser ce seuil-là de plus en plus haut, mais on rentre dans une autre mécanique, là, c'est-à-dire qu'on veut plus de choses et là, il y a comme une boucle sans fin qui peut s'amorcer. Mais ça, pour entamer ça, faut que tu en aies de l'argent parce que tu peux créer des nouveaux besoins et donc tu peux tout le temps revenir à ta barre de zéro en termes de dépenses. Mais là, à un moment donné, ça rentre dans justement quand tu as plus d'argent que ce qui est nécessaire pour le bare minimum.
Alors, la question qu'on vous pose ce matin, à quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux? Et là, je vais vous dire en partant, évidemment, j'ai l'impression que la grande majorité des appels, ça va être des gens qui font un salaire moindre que ce qu'ils aimeraient faire et ils vont nous dire, moi, si je faisais plus d'argent puis que je faisais tel salaire, je serais heureux. Si c'est l'inverse, si vous faites un très, très gros salaire et vous considérez que ce salaire-là vous apporte plus de problèmes que de qualité de vie, appelez-nous aussi. Si là, ce que vous voulez nous dire, c'est moi, si je faisais 50 000 de moins par année, peut-être que je serais plus heureux. Dites-le aussi. Je pense que ça va être très intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce que c'est une situation qui peut arriver aussi, Guillaume.
Oui, absolument. Puis j'ai vu très souvent, puis là, peut-être que les gens vont un petit peu tomber de leur chaise, des clients que j'ai qui sont millionnaires, qui ont beaucoup d'argent et surprenamment sont complètement malheureux parce qu'ils sont complètement rigidifiés avec cet argent-là parce qu'ils rentrent dans une disposition émotionnelle d'évitement de la perte de leur fortune ou de la dévalorisation de leur fortune. Donc, des fois, quand tu as de l'argent, mettons que tu n'as pas mérité, que tu n'as pas, je dirais, généré par tes propres actions, comme gagner à la loto, un gros héritage, ou d'être surpayé pour différentes circonstances, différents contextes. Ça arrive, des fois, il y a comme, entre guillemets, un coup d'argent, mais comme des gros coups d'argent, comme par exemple, il y a des emplois, lorsque tu t'en vas très éloigné, dans des régions éloignées ou des emplois dangereux, tu as des primes qui sont tellement fortes que tu deviens surpayé.
Ouais.
Et donc, là, tu te ramasses avec beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est même plus proportionnel à l'action que tu as fait. Ce sont des circonstances exceptionnelles et ça fait en sorte que tu as trop d'argent pour ce que ton cerveau est capable de gérer et donc ton argent va devenir une source d'anxiété et c'est rendu toi qui travaille pour ton argent et ce n'est plus ton argent qui travaille pour toi. Donc, les rôles s'inversent jusqu'à un certain seuil. créé. Ça, il faut psychologiquement le comprendre. Donc, de l'argent pour de l'argent, c'est comme une ressource externe. C'est très puissant. Il faut savoir comment faire. Il faut que le cerveau soit capable de jongler avec ça.
Alors, pensez-y vraiment profondément à cette question-là. À quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux? On doit s'arrêter pour la première pause de l'émission. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On vous parle au retour de la pause dans Ni noir ni blanc.
Plus large des choses. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Le salaire du bonheur, c'est notre sujet de ce matin. Et de ce pas, allons parler à Yannick qui est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
On vous écoute Yannick.
Moi, ça serait 150 000 $ par année. Claire. Parfait.
Comment t'expliques ça?
Ben, avec le coût de la société aujourd'hui, le coût de la vie, puis tout ce qu'on veut comme ambition, tous les projets qu'on veut, puis tu sais, être à l'aise vraiment financièrement aussi, pour pas être trop endetté, pouvoir voyager quand on veut dans l'année. Moi, je me contenterais de 150 000 par année.
Mais Yannick, 150 000 clair par année, là, c'est 12 500 par mois. Là, on est au-delà de juste payer vos comptes à la fin du mois. Là. Qu'est-ce que vous feriez avec autant d'argent que ça?
Ben, je pourrais voyager quand je veux, 2-3 fois par année. Je pourrais m'acheter un chalet, un bateau. C'est toutes les dépenses superflues, mais je pourrais les faire. Puis en même temps, j'aurais toujours plus d'argent. Je serais très à l'aise financièrement.
Yannick, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci.
J'aurais voulu lui demander comment il fait en ce moment.
Ah, ça arrêtait. Il est encore là, Yannick? Ah, il est parti, malheureusement. Il y avait beaucoup de vent en arrière.
Il a déjà commencé. C'est sorti de bateau.
Oui, je pense qu'il était à Tadoussac, en train de regarder les baleines. Ils vendent pas mal tout le temps là-bas. Ouais. Mais oui, ça aurait été intéressant, d'ailleurs. On va le poser à notre prochaine...
Parce que souvent, l'hypothèse du salaire ou le chiffre qu'on se met, il est souvent calculé en fonction d'un écart entre ce qu'on fait actuel et ce qu'on sent qu'on aimerait atteindre. T'sais. Fait que c'est pour ça que s'il dit oh, je fais 32 000 par année, puis là, il fait un jump de 150 jusqu'à 150 000. Mm-hmm. Clair en plus, là, on est dans du 230. Là, du
ben 200... ouais, peut-être même 300. Oui,
ouais, quasiment, que... ouais, c'est vrai. C'est quasiment
50% d'impôts dans ces. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Véronique est avec nous. Bonjour Véronique.
Oui, allô.
Allô.
En fond, c'est un peu comme la personne précédente, là, mais c'est 150 000, mais pas clair, là.
OK, mais c'est différent.
Ouais, c'est parce ça. Que...
Ouais, mais dans le fond, ben, j'avais dit aussi avec rechercher, ça serait aussi 300 000, mais familial.
Ah.
Dans le fond, parce que moi, j'ai 3 enfants avec un conjoint, puis avec tout ça, on a beaucoup de dépenses, les maisons, etc. Ben, ce serait fun de vivre un peu plus que juste un peu plus qu'il faut, mais c'est quand même le fun de pouvoir voyager, puis j'aimerais ça que mes enfants y aillent dans des écoles privées, puis tout ça, là, ils vont, puis parce que j'avais regardé des écoles privées dans mon coin, c'est 10 000 par année par enfant,
ouais.
Fait que là, ça monte cher en dit par enfant quand t'en as 3, là.
Ben, tu vois, c'est très différent vouloir ça que vouloir au cas un bateau, un 4 roues, 2 autos, voyager par année. Puis, tu sais, c'est d'autres considérations. Puis, ce que la science montre, c'est il faut avoir un salaire qui comble les besoins les plus importants, fondamentaux.
Exact.
L'éducation fait partie de ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais l'école privée, ça peut faire la job. Oui, je comprends.
Mais public, tu veux dire,
ouais. Oui, mm-hmm. C'est ça, exactement. Donc, ça rentre dans pas mal les besoins de base, l'éducation. Puis évidemment, qu'on multiplie le nombre d'enfants, ça change complètement la donne. T'sais, c'est pour ça que si toi, tu me dis « je veux un salaire de 300 000 par année parce que j'ai 3-4 enfants versus je veux 300 000 par année parce que au cas, j'aimerais avoir un chalet, au cas, j'aimerais pouvoir voyager, puis au cas, j'aimerais m'en mettre de côté, puis au cas, je veux pas me restreindre dans mes restaurants. » On est dans deux ordres de priorité.
Absolument.
Et c'est sûr que la satisfaction d'un scénario versus l'autre n'entraînera pas le même niveau de bonheur, là. Clairement.
Mais Yannick avait peut-être pas d'enfants. Hein? Fait que c'est sûr que quand on pense à un salaire et qu'on a juste nous à s'occuper, on va peut-être être plus porté à se payer des luxes pour nous. Et
ben
Véronique,
oui.
Dites-moi, votre revenu familial présentement s'élève à combien?
Autour de 140.
140 revenus familiales, OK.
Puis comment ça va actuellement avec ça?
Ah, ça va très bien. On peut voyager, mais comme je vous dis, mettons, je veux les envoyer au privé pareil, pas parce que le public, c'est juste parce que le privé est juste à côté de mon travail, fait que ça serait comme plus facile. Mais c'est juste parce que un petit peu plus, c'est toujours plus agréable, comme on disait tantôt, là, quand même.
Ouais.
Là. Au lieu de toujours vivre, parce qu'en plus, là, il y a un peu les pales d'épicerie qui vont augmenter, puis tout ça, à un moment donné, tout augmente, mais le salaire ne suit pas vraiment tout le reste.
Mais permets-moi de te poser une question supplémentaire. Là, en ce moment, mettons, là, si je fais mes petites mathématiques sur papier, 140 000 en ce moment, tu dis « ça va bien ». OK? Donc, quand quelqu'un me dit « ça va bien », il y a, semble-t-il, un équilibre entre les dépenses et le revenu. Donc, à 140 000, il y a comme un succès que vous avez réussi à faire au niveau familial. Là, je me pose quand même la question, l'écart entre 140 000 et le 300 000 familial dont tu parles, c'est le double. Donc, est-ce que tu as l'impression que doubler ton salaire alors que c'est déjà un succès dans votre équilibre, ça va significativement améliorer vos conditions de vie?
Mais j'écoutais tantôt quand tu parlais de l'autre précédent. Mm-hmm. Et
oui.
J'avais aussi, en vous écoutant, je me suis dit, ouais, peut-être le double, ce serait intense, mais tu sais, au moins un petit 50 000 ou un 25 000 de plus, ça serait comme plus agréable pareil.
Bon, alors voilà. Plus. Tu vois, là, moi, je trouve que c'est plus en lien avec la littérature scientifique et la psychologie de dire, OK, à 140 000, on rentre, mais on rentre un petit peu serré, OK? Donc, si on veut aller au sommet de notre confort, juste en additionnant, par exemple, un 20 000 ou 25 000, c'est pas obligé de doubler le salaire pour atteindre ça, parce que les dépenses vont pas se doubler pendant l'année. Donc, là, je trouve que c'est plus vrai ou ça correspond plus à la littérature, mettons 140 000 à 165 000. Là, il va vraiment avoir un équilibre parce que là, vous allez avoir votre coussin où est-ce que vraiment les préoccupations vont s'abaisser. Donc ça, c'est plus représentatif du niveau, je dirais, de satisfaction plutôt que de dire « au cas, je vais le doubler mon salaire ». Vous n'aurez pas le gain. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire avec 150 000 de plus. C'est pas ça dont... moi, j'en ai des projets pour vous autres. Là. Puis moi, je suis pour l'argent et la richesse et tout ça. Mais là, on parle vraiment au niveau d'impact psychologique. C'est plus des ajustements plus fins qui permettent de trouver cet équilibre-là puis d'aller au sommet des ratios bonheur-salaire. Mm-hmm.
Merci beaucoup, Véronique, d'avoir appelé. Je vais te lire un commentaire. Juste avant d'aller parler à Dominique, te lire un commentaire que je trouve assez intéressant. C'est sûr que c'est pas une variable qu'on explore vraiment dans l'émission d'aujourd'hui, mais il faut quand même y penser. Quelqu'un dit, faut pas oublier qu'à 150 000 de plus par année, il y a souvent les responsabilités qui viennent avec. Il faut être capable de les prendre sur nos épaules, ces responsabilités-là. Quel bon point. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire des centaines et des centaines de milliers par année, là, tu sais.
Ben, c'est un super bon point. Puis, ben, je pense que ça rejoint un peu l'émission. C'est parce qu'il y a vraiment la notion magique d'un chiffre. Comme si c'est comme une ressource qui vient un peu de nulle part. De l'argent, faut la fabriquer. Faut attirer cette ressource-là et faut créer cette valeur-là dans nos comportements. Et effectivement, créer cette valeur-là vient avec des responsabilités pour maintenir ce genre de valeur-là par année. Donc, ça se peut que faire 300 000, dépendamment de la façon dont on le fait, il coûte plus cher en énergie totale puis en sacrifice total de vie. Par exemple, en d'autres ressources limitées. Parce que, mettons que l'argent, c'est une ressource. Ben, pour la fabriquer, cet argent-là, et ça te prend un sacrifice en termes d'énergie émotionnelle et physique. Ça prend un sacrifice en termes de temps. Ça prend un temps pour faire de l'argent parce que des actions, faut que tu fasses. Donc, si ça te prend 95 heures semaine, générer ton 300 000, ta question, c'est est-ce que ton 300 000 vaut 300 000. Donc, il y a des ratios très complexes pour trouver l'équilibre là-dedans et c'est ça. Ça fait partie, je trouve, du développement humain. C'est, OK, est-ce que je peux augmenter mon revenu avec beaucoup de qualité de vie en protégeant mes autres ressources, c'est-à-dire mon énergie psychologique et physique et mon énergie en termes de temps. Souvent, l'énergie, je vais le calculer en termes de ressources limitées comme le temps. C'est extrêmement important. Et si tu manques de temps, tu ne peux pas l'exporter dans d'autres priorités dans ta vie, par exemple, tes relations ou ta famille, ce qui fait en sorte que ta qualité de vie ne va pas augmenter, va diminuer.
Dominique est avec nous maintenant. Bonjour, Dominique.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ben moi, je viserais un 110 000 $
par année.
Par année, pour moi, là, ma conjointe a fait à peu près l'équivalent de moi présentement. Pour la simple et bonne raison que là, on a deux enfants, on vient d'acheter une maison, puis j'habite à Montréal, fait que le coût de la vie est beaucoup plus élevé.
Ça, c'est clair.
À part, moi, en ce moment, on vit bien. T'sais, on a un train de vie raisonnable, on est capable de faire des vacances. On va pas nécessairement voyager en avion, là, mais...
Avec un revenu familial de combien présentement?
220.
Environ
150 000. Fait que dans le fond, vous aimeriez faire, vous seul, 110 000, puis peut-être votre conjointe aussi, fait qu'un revenu familial plus autour de 200, c'est ça?
Ah, moi ma conjointe, elle peut rester le même salaire.
Ah, OK. Fait que vous voulez juste un petit 50 000 de plus, dans le fond, là.
T'sais. Ouais, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, en ce moment, on arrive bien, on est confortable, mais j'arrive pas à accumuler de l'argent, là. Je peux pas placer d'un REER. Je suis dans une PME, puis on n'a pas de fonds de pension.
Ouais.
Fait que je suis pas capable de le bâtir.
Ouais.
Fait que mon actif, c'est ma maison, puis avec le temps, on va se payer. Mais présentement, le 20 000 clairs de plus par année, ben c'est là où est-ce que je le mettrais, plus en économie, puis ma durée des vieux jours.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend un petit peu anxieux présentement, Dominique, de ne pas être capable d'en mettre de côté pour le futur?
Ben, moi, je te dirais, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont réussi, si on peut dire. Fait que avec le temps, ça va revenir, mais tu sais, c'est un peu plate de dire que t'attends ça, là, pour bâtir ton patrimoine familial.
Tu parles d'héritage, là, c'est-tu de ça dont
on
parle? OK.
Je comprends. Ben oui, effectivement, c'est que dans le fond, ça vous enlève un petit peu la fierté personnelle d'avoir bâti vous-même votre patrimoine, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis bon, tu sais, je veux dire, ça sera pas des millions non plus, là, tu sais, dans le sens que... ils ferment pas des millions,
non,
là.
Non, c'est ça.
Mais, tu sais, le 20, 30 000 de plus, tu sais, ça permettrait d'avoir un petit peu de luxe, changer de voiture pour quelque chose d'électrique, puis après ça, repenser un peu tes dépenses pour, je te dirais, optimiser ta... C'est bizarre parce que ça va global. Moi, je vois vraiment plus global, comme de quoi que tu peux avoir, un petit peu plus d'argent, mais après ça, je te dirais prioriser tes valeurs personnelles, tu sais. Comme, je te dirais, le fait d'avoir moins d'empreintes sur la planète, et tout ça, c'est un peu paradoxal de parler de capitalisme puis d'argent puis de dire t'as moins d'empreintes, là.
Ben, c'est parce que pour avoir moins d'empreintes, effectivement, à certains égards, ça prend de l'argent parce que les voitures électriques, pour l'instant, coûtent un petit peu... ça dépend de ce qu'on a besoin, là, évidemment. Mais Dominique, je trouve pas que vos besoins ou vos demandes sont si extravagantes que ça. En gros, vous demandez un 20-30 000 de plus par année pour atteindre le bonheur, là.
Ben oui, pour atteindre le bonheur puis avoir les petits projets qui, je te dirais, en ce moment, je retarde sur un horizon de 5 à 8 ans, tu sais. Je retarde ça, mais si je l'avais tout de suite... Je dirais cet afflux d'argent-là. Je préfère des moves, si on peut dire, plus rapidement. Là,
Dominique, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Ça démontre, Guillaume, à quel point le bonheur ne se trouve pas dans 500 000 par année. Là. Pour des familles comme ça, tout ce que je veux, c'est être capable de m'en mettre de côté dans mes REER puis peut-être me payer des petits luxes une fois de temps en temps.
Bien, c'est parce que l'argent, on surestime la quantité d'argent dont on a besoin pour réussir des choses. C'est beaucoup plus un processus de connaissance personnelle et de priorisation et d'organisation. C'est beaucoup plus dans le mindset. Et quand on est capable de faire ça, ça a plus tendance à ensuite créer plus d'argent. Mais l'impossibilité, notre handicap, mettons, à faire des choix clairs, à prioriser, à faire des buts, à s'organiser mentalement, à être consciencieux, qui est un des traits de personnalité les plus importants pour la gestion financière, un des 5 traits de personnalité qui est la consciencieusité, qui permet de l'organisation, la capacité de poursuivre des buts, résister à des buts contaminants ou parallèles ou pas prioritaires ou distracteurs. Bref, ce trait-là favorise la mise en place des choix dans un contexte de ressources limitées. Il faut être capable de faire ça si on veut faire de l'argent. Puis c'est d'ailleurs ce que je fais avec n'importe quel client qui veut augmenter son salaire. Ça sera pas une magie de dire « OK, prends plus d'argent, puis aie plus d'argent, puis là, ta vie va mieux aller. » Ta vie ne va pas mieux aller. Tu vas surfer sur une vague qui va écraser parce que ton cerveau ne peut pas utiliser, ne sait pas comment faire fructifier cet argent-là à travers des décisions quotidiennes.
On doit s'arrêter pour la deuxième pause de l'émission. À quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Y en a-tu des gens qui font des gros salaires puis qui pourraient être heureux à moins d'argent? On veut vous entendre, vous aussi, dans Ni noir ni blanc.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni noir ni blanc avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
On va aller parler à Patrick dans quelques instants, mais d'abord, Guillaume, est-ce qu'il y a une différence dans le niveau de bonheur face à l'argent quand tu as travaillé pour gagner ton argent versus quand une tonne d'argent te tombe sur les épaules comme un gagnant à la loterie,
bon,
par exemple?
Exactement. Pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre parce que ça fait appel à la notion de privilège mérité versus non mérité. Alors, l'argent, avoir de l'argent ou des ressources, c'est un privilège et c'est une bonne chose si c'est un privilège qui est mérité et c'est une mauvaise chose ou potentiellement une mauvaise chose si c'est non mérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'argent, faut comprendre que c'est juste une unité de valeur, OK? Et de la valeur, c'est une forme d'énergie qui bouge, qui va et qui vient, qui prend de l'expansion, qui grandit, qui peut diminuer. Lorsqu'une personne, par ses comportements, par son intelligence, par son éducation, par la mise en place de ses comportements, de ses rêves, de ses projets, crée de la valeur, il va y avoir l'accompagnement d'une valeur aussi monétaire. Souvent, ça va suivre. Et ça, c'est une valeur monétaire ou de l'argent qui est méritée parce que c'est généré par la personne. C'est une personne qui configure la façon de créer de l'argent. Donc, c'est généré. Donc, cet argent-là, c'est mérité. C'est un privilège mérité. Mais il y a des gens qui récoltent d'importantes sommes par le fruit de circonstances ou par le fruit du hasard. Et donc, c'est un privilège qui est non mérité. Comme par exemple, gagner à la loto. Comme par exemple, avoir un important héritage et pour lequel tu n'as pas directement contribué. C'est-à-dire, tu n'as pas créé cette valeur-là. C'est une masse d'énergie que tu as entre les mains, mais que ton cerveau a jamais généré. Ça, c'est des gros problèmes parce que ce qui arrive, puis ça, je l'ai vu souvent avec des clients, c'est que tu deviens anxieux avec ton argent et l'argent, au lieu que ça soit considéré comme une ressource, ça devient un but. Donc, au lieu que ça soit une ressource pour faire quelque chose, parce que l'argent et de l'énergie, il faut que ça reste en mouvement, il faut que ça serve à du mouvement, toujours, toujours, toujours. Ça, c'est la logique de la richesse, c'est la logique de la croissance. Il faut que ça bouge, il faut que ça serve des buts. Mais quand tu récoltes de ça, le but, c'est l'argent lui-même. Et là, on développe un mauvais rapport avec l'argent. Mm-hmm. Et je l'ai vu souvent avec des gens qui, je me souviens, j'avais un couple là, qui avait ensemble presque 2 millions. Ils étaient complètement rigidifiés dans leur vie de couple, dans leur but, parce qu'ils n'avaient aucune idée quoi faire dans leur vie. Ils étaient sous-développés au niveau psychologique, au niveau de leur identité, puis de leur but, puis de leur connaissance de soi. Et leur but dans la vie, c'était de pas faire d'erreur avec leur argent. Puis il a fallu qu'on mette l'argent vraiment stand-by, puis qu'on travaille sur des enjeux de fond pour que leur cerveau soit rendu capable d'avoir des projets, puis une vie. Et
ça causait de l'anxiété.
Exactement, là, exactement.
On a Patrick maintenant qui veut nous parler. Bonjour Patrick.
Bonjour à vous, ça va bien?
Très bien, on vous écoute.
Moi, je vais être plus modeste que les autres auparavant. Moi, je dirais 90 serait mon affaire. Moi, ce serait dans l'unique but de pouvoir continuer à vivre à Montréal, tout simplement.
OK.
J'ai un salaire présentement de 65 et ça commence à être très limite pour y vivre et même pour s'acheter ne serait-ce qu'un petit 3,5, un condo.
Effectivement, vous avez raison. Donc, c'est pas évident.
Ouais, donc, moi, en plus, je travaille en environnement, donc il y a toute l'histoire de s'acheter des bateaux, des gros VUS, puis s'acheter des bling-bling. J'embarque pas trop dans cette partie-là, là, surtout quand t'as l'heure de la décroissance économique. Là. Alors, je sais pas. Moi, je me contenterais de 90, bien que 90, c'est un très gros salaire, tant qu'à moi.
Et là, à 65 000, comment tu vis ton quotidien ou comment tu arrives par mois? Comment t'établis ça?
J'arrive très bien, sauf que depuis que je suis seul, en fait, en couple, avec le même salaire, j'avais la capacité de me mettre de l'argent de côté.
Ouais.
Seul, j'ai absolument pas la capacité de me mettre de l'argent de côté.
Ouais, donc, ça change.
Mm-hmm. Ouais, mm-hmm. Donc sinon, j'arrive là dans ma vie tous les jours, mais j'ai pas des dépenses extravagantes non plus. Là. Je mets pas 250$ dans un F-150 par semaine.
Non, c'est ça.
Ouais, ouais.
Fait que vous avez géré, en fait, votre budget en fonction de vos moyens. Vous n'êtes pas en train de vivre au-dessus de vos moyens, là.
Ah, oh, absolument pas. Là, je suis absolument pas endetté. Je suis capable de payer mon hypothèque et tout. Sauf que, éventuellement, j'ai même pensé vendre mon condo, en racheter un neuf et j'en aurais pas les moyens.
Mais vous êtes quand même très sage dans votre gestion, Patrick. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci.
Ça, c'est important. L'économie, OK? Parce que, typiquement, quand on parle d'arrivée par mois, on parle de dépenses. Puis là, l'économie, c'est comme ce qui reste.
Ouais.
C'est parce que maintenant, il faut que ça soit une dépense normale, l'économie. Ce n'est plus possible à cause de l'effritement social, l'effritement familial. Tu ne peux plus compter sur ta famille pour dire, de toute façon, quand je vais être vieux, je vais juste me faire vivre par mes enfants. Autrefois, c'était comme ça. Ça n'a jamais été une pression, vieillir. Maintenant, on se sent seul, maintenant, puis on se sent laissé à nous-mêmes pour nos vieux jours. Et donc, ça veut dire qu'il y a une dépense d'avance pour nos vieux jours. Donc, l'économie, c'est maintenant une dépense. Et elle doit correspondre à une dépense par mois. Donc, c'est faux de dire, oui, mais scientifiquement, si tu payes toutes tes factures, tu es correct. Oui, mais il y a une facture implicite qui n'apparaît pas, qui s'appelle la dépense pour te faire vivre toi-même de façon autonome plus tard.
Ben, en fait, c'est que tes loisirs et tes dépenses superflues, tu dois pouvoir les faire ou les dépenser avec ce qui te reste après avoir mis ton économie de côté.
Exact.
Juste avant d'aller parler à Kevin, je te lis un petit texto intéressant. Okay. Pierre-Alexandre nous dit, moi, je gagne 85 000 $ par année seul, mais avec le temps supplémentaire, je monte à 110 000 par année. Mais je suis en train de regarder avec ma conjointe pour qu'on se parte une business en agriculture. Et selon notre plan, ça va nous faire un salaire de 50 000 $ par année chaque, donc 100 000 de revenus familial. On sera plus heureux comme ça, j'en suis convaincu. Moins d'argent, mais plus simpliste et surtout moins de stress.
Puis aussi, ce que j'entends, c'est de la motivation beaucoup plus intrinsèque. C'est un projet qui nous tient à cœur. On se lance pas là-dedans juste pour le fun, parce que voyons, comment je vais faire 100 000 de plus? Sûrement, il faut que je me lance dans la culture des patates. Non, c'est pas un raisonnement. C'est qu'il y a une passion à l'arrière de tout ça. Un, deux, c'est en collaboration avec un temps de qualité avec la conjointe. Donc ça, ça corrèle, hein, sur de la motivation intrinsèque. Donc, il y a l'autonomie, c'est-à-dire quand tu es entrepreneur, c'est ton choix. Donc, tu as l'autonomie, tu as les relations qui rentrent là-dedans et tu as la compétence, c'est-à-dire là, on veut être capable de faire réussir une business. Donc, si on est capable, avec ces facteurs-là, de faire plus d'argent, là, on a vraiment le meilleur équilibre. C'est pour ça qu'il faut réfléchir de façon multifactorielle sur comment on augmente notre qualité de vie. Le salaire total, oui, mais comment tu vas le gagner, ce salaire-là, et au prix de quelles autres ressources autour?
On a un jeune de 26 ans au bout du fil, j'ai hâte d'entendre son opinion, qui s'appelle Kevin. Bonjour, Kevin.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien.
Merci.
Très bonne émission.
Merci.
J'aime votre gentil, Kevin.
Merci, Kevin.
Mon salaire idéal pour le moment, ça serait 60 000. Okay. Présentement, je fais entre 35 et 40 000 par année.
OK.
J'ai réussi à économiser 50 % de mon salaire.
Bravo, wow. Bravo.
Parce que je me dis que je suis encore jeune, puis je suis pas obligé de toujours manger dehors, pas obligé de toujours dépenser, donc je mets mon argent de côté et j'investis l'argent que je mets de côté pour régénérer plus d'argent.
Okay. Est-ce que vous habitez chez vos parents, Kevin, ou vous devez payer un logement là, avec tout ça?
Non, je suis en colocation.
En colocation, OK. Donc, c'est une méthode, effectivement, pour réduire les dépenses. Mais Kevin, à 35-40 000 $ par année, être capable de mettre 50 % de côté, je vous trouve très, très bon, là.
Non, mais c'est parce que mes parents ont... je suis fils d'immigrants, en fait. Et mes parents, lorsqu'ils sont venus ici, ils ont travaillé salaire minimum. On était trois enfants à la maison et on n'a jamais manqué de rien avec le salaire minimum. Donc, mes parents savaient gérer l'argent.
Oui.
Ils m'ont transmis cette valeur-là. Donc, moi, je dépense pas pour rien, en fait.
Mais chapeau
super,
à eux,
super
vraiment.
Et
là.
Bravo. Et moi, j'ai tellement de respect pour les immigrants qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leurs racines, puis ils se disent, nous autres, on s'en vient réussir, puis on va avoir vraiment une mentalité de réussite, de gestion de priorité. C'est le fun qu'il y ait cette transmission-là. Vraiment, bravo, puis lâche pas.
Vraiment. Puis Kevin, une petite dernière question pour vous. Avec le 20 000 de plus par année que vous feriez si vous montiez à 60 000 $ de salaire, qu'est-ce que vous feriez?
Oh, j'investis plus.
OK.
C'est tout.
OK, wow. On commence à voir le profil ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher, puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?
Ah, mais moi, je suis prof de français, en fait.
OK.
Ben, OK, fait que vous avez, dans le fond, un métier à échelon salarial. Vous savez exactement c'est quoi le maximum que vous allez faire plus tard.
Ouais. Je comprends. En plus, avec la nouvelle réforme d'éducation, je pense que je suis un petit peu content.
Oui, bon, c'est vrai, ça vous a avantagé un petit peu, effectivement. Ouais. Hey, Kevin, merci beaucoup pour votre appel, puis bravo, vraiment.
Ben oui, bravo, lâche pas.
Hey, okay, bye. Bravo à vos parents aussi d'avoir inculqué ces belles habitudes-là, c'est exceptionnel.
Vraiment, la richesse doit s'enseigner. Ça peut pas être un tabou, l'argent. Ça, une culture qui a fait de l'argent un tabou, c'est une culture qui est pas équipée pour réussir à son plein potentiel. Et on le sait, au Québec, c'est comme mal vu trop réussir. On va pas dire le mot argent, on va dire nos sous. Il y a toujours l'espèce de...
Les sous.
C'est innocent, je m'excuse tout le monde. C'est comme le but, c'est la richesse. Mais de la richesse autogénérée, puis de la richesse qui est proportionnelle à la valeur de notre comportement et laquelle est proportionnelle à notre compétence.
Moi, je peux pas te dire comment le mot « sous », ça me tombe sur les nattes. Les sous, ça coûte des sous, on n'a pas assez de sous. C'est vrai que ça fait des
faut
petits
sous.
On est gênés
de
parler d'argent. Là.
Non,
c'est
mais
ça, là.
Ça nous aide absolument pas. Là. Ça nous rend jaloux pour ceux qui, eux, assument le fait qu'ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire croître un patrimoine.
Ils font pas
de la
des
valeur.
Sous, eux autres, ils font de l'argent. C'est ça la différence.
Exactement.
On doit s'arrêter pour la pause. À quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux? C'est vraiment intéressant de vous entendre.
Oui, merci.
514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc. On se retrouve dans quelques minutes.
Ni Noir ni Blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui nous ont appelés jusqu'à maintenant. Puis les deux prochains, c'est des hommes. On dirait que c'est parce que les femmes sont moins à l'aise de parler d'argent. Appelez-nous, on veut savoir comment vous gérez ça, puis à quel salaire vous seriez heureuse. Je serais curieuse, en fait, de savoir si les gars sont pas plus ambitieux, plus ambitieux, en fait, que les femmes sur le salaire.
On va appeler Jessica Arnois, voir qu'est-ce qu'elle a dit.
Ah non, les femmes, appelez-nous. On veut savoir à quel salaire annuel seriez-vous le plus heureux. Maxime est avec nous. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
On vous écoute, Maxime.
Donc, je vous explique un peu. Moi, j'ai 29 ans. J'ai deux enfants qui sont en bas âge, là, 6 mois. Mon salaire actuel, c'est 45 000 par année. Brut. Donc, net, ça donne à peu près 2 000 par mois. Je suis propriétaire d'un duplex qu'on habite. Fait que, évidemment, ça vient réduire le paiement hypothécaire. Donc, ça nous donne un peu plus de lousse à la fin du mois pour payer toutes les factures.
Ouais.
Dans ma situation, je suis capable de mettre à peu près 600 $ par mois dans un CELI pour des projets. Okay. Je donne comme exemple, là, depuis le mois de janvier, je ramassais mon argent pour faire asphalter mon entrée chez moi. Ça coûtait à peu près 4 500 $. Fait que si on le prend par rapport à mon salaire mensuel, ben c'est 2 mois de salaire complet qui passent là-dedans.
Ouais.
Et justement, le bonheur pour moi, ça vient dans la satisfaction de réaliser un projet sans m'endetter. Avec mon salaire qui est pas super élevé pour l'instant, mais je suis capable de réaliser un projet. Puis là, je me trouve un peu adulte de faire mon bonheur en regardant mon asphalte et me dire, coudonc, j'ai réussi. Puis évidemment, ben à 45 000, plusieurs acheteurs âgés sur Marketplace pour les bébés. Je veux dire, on a meublé la chambre des enfants pour 200 $ quand on aurait pu acheter simplement une bassinette pour ce prix-là.
Ouais.
On fait les circulaires pour l'épicerie. On vit pas non plus pour les réseaux sociaux. Là, je veux dire, quand on regarde Instagram, je pense qu'il y a une grosse influence là-dessus. Toutes les jeunes de mon âge ont l'air de faire 5 millions puis sont tout le temps rendus dans des restos branchés.
Tellement.
Ça roule tout en véhicule neuf. Ça va tout te chercher un café au Tim Hortons le matin. Je veux dire, ramener ces gens-là, peut-être qu'ils ont un salaire plus gros puis ils n'y arrivent pas. Fait que, comme Guillaume disait, je pense que c'est une succession de choix. Puis, au final, faut rester économe. Puis, je veux dire, mon salaire idéal, pour répondre à la question, ben mettons que j'augmenterais de 20 ou 25 000, ben je serais capable d'en mettre plus de côté puis réaliser mes projets plus rapidement. Mais je pense que en gagnant actuellement ce salaire-là depuis à peu près 4-5 ans, ben au final, si mon salaire vient augmenter, ben je vais avoir réussi à garder mon niveau de vie assez bas. Comme ça, je vais être vraiment capable de bénéficier de cette augmentation-là.
Puis Maxime, dites-moi, je comprends que votre conjointe est probablement en congé de maternité présentement, mais est-ce qu'habituellement, il y a deux salaires qui rentrent dans la maison? OK. Fait qu'habituellement, c'est plus que ça là, que vous avez pour la famille au complet.
45 000, c'est mon salaire à moi. Je vous ai fait essentiellement la même chose aussi.
OK.
Reste que pour avoir deux enfants et tout, 90 000, il y a des gens qui font ça seuls.
Puis pendant les congés de maternité, évidemment, c'était moins là, que pour son salaire à elle. Est-ce que ça a été plus difficile pendant ces mois-là?
Non, on est toujours là-dedans. Ça se passe très bien. Là. Je veux dire, il y a les allocations qui viennent aider un peu. Mais pour vous donner un exemple, il a fallu acheter une vanne. Ouais. J'aurais pu me tourner vers un concessionnaire pour aller m'acheter un Toyota Sienna 9 2021, mm-hmm. m'embarquer dans des paiements de 500 ou 600 $ par mois.
Voilà.
J'ai opté pour une 2011 à 8000 $ ça vaut quand même son pesant d'or. Là. Mais ça me fait des paiements d'à peine 200 $ par mois. Je veux dire, j'ai fait un prêt pour ça. Puis je veux dire, ça me dérange pas de payer un petit peu plus d'intérêt, sachant que au final, j'économise entre guillemets 4000 $ par 400 $ par mois à avoir un véhicule un petit peu plus âgé là, qui fait en masse de travail.
Puis comment vous avez appris à gérer votre argent comme ça, Maxime? Est-ce que ça vient de vos parents, ça, l'idée d'être économe puis de bien gérer son argent?
C'est une excellente question. Je dirais que ça vient rejoindre un peu un sujet que vous aviez il y a à peu près un mois dans l'émission. Là, vous demandiez aux gens comment ils géraient leur argent, mm-hmm. puis s'il y avait des dettes et tout. Je veux dire, j'ai été dans le trouble à un certain moment avant d'avoir mon emploi actuel. J'ai déjà eu des dettes quand même assez importantes, puis j'ai réussi à les payer en travaillant de moi-même. Fait que je me suis dit, je veux plus jamais me ramasser dans cette situation-là.
Okay.
Fait qu'à partir de là, je pense que ça remet les choses en perspective. On revoit nos dépenses, on revoit toute la façon de procéder, puis au final, ben on se retrouve dans une situation que je pense quand même viable à mon sens.
Petite question pour toi, si tu permets, Maxime. Oui, t'es là?
Oui.
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 Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je travaille dans la fonction publique québécoise, fait qu'un peu comme Kevin, j'ai un échelon salarial, là, c'est sûr okay. qu'il y a une segmentation à toutes les années. Il okay. existe aussi des classes d'emploi, je veux dire, j'ai les études nécessaires pour obtenir un poste qu'on appelle professionnel dans la fonction publique, donc okay. c'est sûr que à ce moment-là, par exemple, en ce moment, les emplois techniques, les top salaires sont à peu près 50 000. Professionnels, ça tourne autour de 80, c'est sûr, avec le temps et les années,
okay.
mais c'est quand même des belles perspectives, puis en même temps, je pense que de gagner le salaire que je gagne actuellement va juste m'être utile tout au long de ma vie si jamais je venais à gagner un plus grand salaire.
OK. Merci beaucoup, Maxime.
Vraiment, merci beaucoup. Je réalise en écoutant les appels et puis en lisant les textos 98985 que les gens sont heureux, pas nécessairement à 100 000 par année. Là. Il y a plusieurs personnes qui vivent très bien avec le salaire qu'ils ont présentement. Tout est dans la gestion, en fait.
Bon, alors ça, c'est un point important. C'est le salaire, c'est une chose... La gestion, c'est une autre chose, mais là où oui, j'ai toujours beaucoup de facilité à parler français. mais tu vois, là où j'aurais voulu aller avec Maxime, là, on manque un peu de temps, mais
ouais.
c'est comme, est-ce qu'il est heureux dans son travail? Est-ce qu'il est pleinement satisfait? Est-ce qu'il exploite toutes les aspects de sa personnalité, de ses talents? Moi, si j'étais à coacher là, éventuellement Maxime, c'est comme, OK, bon, on rentre dans notre argent, il y a une belle gestion, mais son potentiel de croissance, à lui, on est rendu où? Et là, ça va commencer à changer des perspectives sur des choses possibles. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de place dans la vie et ce n'est pas que du salaire, c'est du développement personnel aussi.
Bon, on a deux petites minutes pour poser ces questions-là à Guillaume avec nous. Bonjour, Guillaume. Bruno, excusez-moi. Bonjour, Bruno.
Oui, bonjour. Excellent sujet. Moi, je suis dans les après-impôts 48 50 000.
OK.
Donnez-moi un 10 000 ou un... Ben, mettez-moi 20 000, 60 000 après-impôts, je serais bien heureux.
Okay.
Je regarde autour de moi, je suis dans le transport, puis je pourrais faire plus. Oui, je pourrais acheter être propriétaire de mon propre camion, mais non, je me le recommande pas moi-même.
OK.
Donc, il demande une bonne mise de fonds. Puis c'est un deuxième hypothèque dans le chemin, en plus du loyer puis de la maison. Fait que non, je veux pas toucher à ça. Puis là, je viens de passer 3 heures dans le shop. Je veux pas imaginer si ce serait moi le propriétaire puis il faudrait payer.
Mm-hmm. Ça vient avec des responsabilités puis une pression que vous voulez pas vous mettre sur les épaules.
Ça vaut pas ça. Ça ne le vaut pas pour toi.
Puis je me considère plus riche que ceux qui ont acheté, excusez-moi, des formations, ce qu'ont appelé avant moi. Parce que avec le salaire que je fais, j'ai été capable d'avoir un CELI. J'ai de l'argent de côté un petit peu pour mes imprévus. Ça vaut de l'or la fois que mon loyer a passé en même temps que mon terme de véhicule. Mais c'est une erreur de planification. Fait que ça a défoncé sur mon compte. Fait que j'ai été capable de transférer dans le compte principal, puis il n'y a pas trop eu de conséquences.
Oui, vous avez prévu ça, là, c'est ça. Oui.
En fait,
vous dormez sur vos deux oreilles, sur vos deux oreilles la nuit parce que vous savez qu'il va y avoir de l'argent pour les imprévus.
Je peux être un petit peu inquiet, mais ça dure 2-3 jours.
Mm-hmm.
Aussitôt que la prochaine paye arrive, je vais être capable de me budgéter, rentrer ça sur mon agenda. Ce jeudi-là, c'est le loyer.
Ouais.
Je passe ça avant que touche à rien avant que le loyer passe. Et puis j'ai été aussi capable de me payer la médecine privée, les cliniques privées.
Bon. Bruno, merci beaucoup d'avoir appelé. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup parce que votre témoignage démontre en fait que quand on n'est pas stressé, qu'on va pouvoir payer nos factures à temps, c'est là où on dort tranquille, j'ai l'impression.
Puis, le discours, c'est pas juste faire le moins salaire possible, là. C'est oui, gérer l'argent, mais quand on a plus d'argent, il faut des projets proportionnels à ça. Et ça se fait aussi.
Merci d'avoir été là. Pause bulletin de nouvelles.